Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
On bouffe ?
Tu bouffes ? Tu bouffes ?
On est tous le relou de la bouffe de quelqu'un. Enfin, je crois. Moi, en tout cas, je sais que j'ai pu être très pénible avec des amis qui me racontaient qu'ils mettaient, par exemple, du riz dans la ratatouille. Alors, j'ai pu parfois, j'avoue, prendre de haut d'autres qui commandaient des makis au kiri dans un restaurant japonais. Mais promis, j'essaie de me soigner. Récemment, d'ailleurs, un utilisateur de Twitter s'est attiré les acclamations de certains et les foudres d'autres en disant, en gros, qu'on savait pas manger comme il faut la cuisine japonaise. Alors pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi est-ce que la bouffe est un des derniers endroits où c'est cool d'être conservateur, où c'est assumé d'être un gros relou, un nazi de la nourriture, comme on pourrait dire? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On sait, les Italiens sont les boucs émissaires de cette histoire. C'est à eux à qui on pense quand on pense pénibilité sur la bouffe. Faut dire que l'histoire de la crème et des carbones ne les ont pas vraiment beaucoup aidés. C'est pourquoi on a décidé d'appeler Floriana en deuxième partie d'émission, franco-italienne. Elle vit là-bas et elle est donc au cœur du truc. Et puis, elle aussi ne se prive pas sur son compte Twitter d'alpaguer qui casserait les pattes ou qui mangerait une pizza avec des bords pas assez gonflés.
J'ai un surnom sur Internet, c'est Aliatola. Ça vient de alio, qui veut dire ail en italien, et donc un jeu de mots aliatola. Non, ça me fait rire, parce que c'est évidemment extrêmement exagéré, et c'est pas du tout... ça me fait rire, quoi.
Mais d'abord, Robin est venu au micro de Bouffon, gourmand, mais aussi journaliste. Il a écrit un article pour Slate, où il analyse ce phénomène et essaie de comprendre pourquoi on est de gros relous, et d'où ça vient surtout.
Je pense que j'ai su être assez conservateur dans ma vision de la cuisine et de la gastronomie. Aujourd'hui, je pars du principe que l'évolution est possible dans la mesure où on respecte l'équilibre d'un plat, la logique d'un plat, et qu'on prend en considération le fait qu'un plat a été fait selon une certaine logique, que les produits ont été assemblés pour une raison assez logique, voilà. On peut la modifier dans la mesure où on connaît l'histoire du plat et qu'on le dénature pas à 100%. Et sans vouloir rentrer d'emblée dans le
dur.
Carbonara Gate, tu vois, par exemple. Mais en fait, je pense que c'est un très bon exemple. C'est que un bœuf bourguignon qu'on ferait avec de la bière et du poulet, par exemple. Bon, je dirais pas que c'est un bœuf bourguignon. Et j'estime aujourd'hui que si on fait des pâtes à la crème et il y a aucun mal à faire des pâtes à la crème, on peut dire qu'on fait des pâtes à la crème sans dire de la carbonara, qui est à la base de cru. Enfin, c'est une base de cru. Donc, il n'y a pas de raison, selon moi, d'appeler des pâtes à la crème une carbonara. Donc, appeler les choses par leur nom, c'est une chose. Et voilà, donc les pâtes à la crème, je n'ai rien contre ce plat-là.
Comment les gens peuvent faire, si jamais ils ne savent pas, pour repérer un pote à eux qui serait un conservateur de la bouffe?
Alors, je pense que déjà, on le voit très vite.
En général, oui.
Soit on est soi-même conservateur et donc on se retrouve dans l'autre personne, soit on ne l'est pas tellement. Et ces personnes-là ont plutôt tendance à t'agacer, je pense. Moi, je pense qu'il y a deux typologies de conservateurs. Il y en a qui savent te dire avec sérieux, avec humour ou sarcasme, pourquoi un plat est fait de cette manière, etc. Et dans ce cas-là, je pense que c'est des arguments qui sont faciles à entendre. Ou alors, t'as des...
Et puis aussi, parce que ça souligne un peu le côté un peu... C'est pas très grave, tout ça, quoi.
Voilà, aussi.
Donc, on peut en rigoler, même si on peut être relou, on assume le côté, c'est... Il y a pire dans la vie.
Qui savent relativiser, en tout cas.
Et d'autres qui sont les malades mentaux.
Voilà. et c'est moins agréable et moins rigolo, je trouve, dans la discussion. Et moi, c'est une discussion que j'écourte de plus en plus, parce que... Mais voilà, une fois encore, moi aussi, j'ai pu être parfois chiant, je pense, sur ce sujet-là, mais... Des personnes qui vont t'expliquer avec véhémence ou avec un ton définitif ce qu'est un plat, etc. Et qui vont être hermétiques au changement, à l'évolution, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a deux typologies. Certains qui ont conscience et qui savent le faire, soit avec sérieux ou alors en rigolant, etc. Et d'autres qui sont très fermés sur le sujet.
Voilà. Alors on va rentrer dans le chapitre de cette interview que j'ai envie d'appeler les nazis de la cuisine, de point le cas pratique de l'Italie. Parce que les Italiens sont quand même connus pour ça. Même si je pense que... Enfin, nous, on dira, ouais, les Italiens, c'est des relous de la bouffe. Je suis pas persuadé que le reste de l'Europe dise pas, ouais, les Français, c'est vraiment des relous de la bouffe aussi. Mais pourquoi les Italiens ont ce truc, pourquoi c'est les champions du monde des relous de la bouffe?
Je suis pas anthropologue de l'Italie. En revanche, je pense que si on remet en contexte ce qu'est l'Italie, c'est-à-dire un assemblage de régions, de territoires, de dialectes, de cultures, de contextes politiques très différents, de disparités, etc. On peut comprendre, l'unification de l'Italie est quand même très tardive. Donc, en comparaison avec d'autres pays, je pense que l'Italie à plein de richesses locales qui rentrent parfois en confrontation. Et voilà, donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi la place dans la famille, qui est aussi le cas en France et je pense dans plein d'autres pays, mais en Italie, c'est quand même très présent, la place de la cuisine de la mère ou de la grand-mère. Très important aussi, donc l'héritage culturel ou gastronomique est quand même très important aussi. Et on en parlait en préparant l'émission, c'est que sur la cucina povera, la cuisine pauvre, c'est une cuisine qui est à base de... c'est dur à dire parce que ça, je pense que ça va faire hurler des gens, mais d'ingrédients assez simples qui sont assemblés. Et donc du coup, ça nécessite une chimie assez précise des plats. Dans la mesure où elle est respectée, le plat est réussi et il suffit de peu de choses pour, comment dire, le déséquilibrer.
Ouais, déséquilibrer. Donc,
je pense que c'est cet assemblage de raisons fait que les Italiens sont très, très attachés aux recettes typiques, etc. Donc, mais le contexte historique, je pense, est très important pour comprendre à quel point ils le prennent très mal, cette façon de revoir. Et parfois, ça se joue à très peu. En Italie, il y a eu des chefs qui sont fait détruire parce qu'ils ont osé mettre de l'ail dans la matriciana, qui est une recette très, très simple aussi. Mais on peut se dire, nous, de notre point de vue, que l'ail, c'est pas grand-chose. C'est juste un petit peu d'ail en plus. Et c'était
une catastrophe.
Voilà.
Alors, si je t'ai invité, toi, c'est parce que t'as écrit un article pour Slate, d'ailleurs, sur ce côté des nazis, des conservateurs de la cuisine. Et tu parles dans l'article en fait que c'est assez paradoxal en Italie parce que ce truc de la transmission et de comment dire ce conservatisme, ça donne aussi une crise de la transmission où les jeunes semblent plus trop s'intéresser à la cuisine et du coup en fait aussi ce conservatisme peut avoir tendance aussi à là où les gens le font en voulant protéger leur patrimoine culinaire peuvent aussi malgré tout étouffer et tuer en fait ce patrimoine là et c'est un petit peu ce qui se passe en Italie.
Alors, de mon point de vue, en tout cas avec les chefs avec qui j'ai pu parler, qui sont italiens, qui travaillent en France ou alors qui travaillent encore en Italie dans des restaurants, eux l'observent à des degrés différents, c'est-à-dire que, et dans mon article je parle de la querelle des anciens et des modernes contemporaines dans la cuisine, c'est que, comme en France au final, il y a des gens qui sont très attachés à la tradition et d'autres à vouloir promouvoir une sorte d'évolution ou en tout cas se permettre et s'offrir le droit de changer quelques plats, voilà. L'Italie est confrontée à ce problème-là et je sais pas si tu te rappelles mais Massimo Bottura donc qui a été
meilleur chef plusieurs fois du monde.
Voilà, en France, dans le monde entier, il est hyper respecté, c'est un mec que les gens adorent, plein de gens je connais plusieurs personnes maintenant qui ont fait l'effort d'aller à Modène qui n'est pas non plus la ville la plus touristique d'Italie pour aller manger chez Bottura etc.
En qui Italie, c'est exceptionnel.
Voilà, exactement.
Mais à Modène, tout le monde le déteste.
À Modène, en Italie, il y a eu beaucoup de mal à accepter que lui reprenne des plats classiques, les remodifie, etc. Et c'est voir à quel point ce deux poids deux mesures je trouve, illustre assez bien la...
C'est vrai que l'exemple de Bottura est assez parlant, quoi. Mais est-ce que tu penses, du coup, que l'Italie peut, quelque part, souffrir de... Enfin, la cuisine italienne peut souffrir de ce conservatisme ou pas forcément?
Je pense qu'elle peut en souffrir. Et surtout, en fait, moi, je pense qu'il y a un problème qu'on aborde assez peu. C'est qu'on reproche aux Italiens d'être conservateurs sur leur cuisine. Mais dans le même temps, il y a une perpétuation de cette tradition qu'on leur impose. C'est-à-dire que la cuisine est un argument gastronomique pour l'Italie. Quand tu pars pour voir des musées, des belles villes, Rome, etc., tu pars aussi pour manger quelque chose de très bon, un plat classique ou historique, etc. Et en fait, malgré eux, ils en sont à devoir perpétuer parce qu'on va... Je sais pas, moi, un touriste français va vouloir cette margarita, ouais, va vouloir sa carbonara.
Ou des bolognaises ou de l'al ragout, on veut un truc qu'on connaît, quoi, on veut les chemins balisés, quoi.
Exactement. Et donc, du coup, eux se retrouvent pas forcés, mais du coup, est-ce qu'on attend d'un chef italien qui nous surprenne, qui soit dans l'innovation, etc., ou alors qu'il nous fasse à la perfection un plat qu'on rêverait de manger et qu'en France, on n'a pas l'occasion de manger? C'est la question. Et en fait, la tradition, au final, quand je parle de perpétuation forcée, c'est que quand tu regardes Big Mama, quand tu regardes plein de pizzerias à Paris, au final, ils servent des classiques parce que les gens veulent des classiques. Et à Paris, on veut un four napolitain,
bombé.
Rond, bombé. On veut la mozzarella di bufala qui vient de Campanie, etc. Tu vois, donc, en même temps, je pense que même si eux voulaient le faire, les Français ou les étrangers aimeraient aussi. Non, mais changez pas tant que ça, en fait, parce que nous, on aime bien et tout. Tu vois, donc, du coup, il y a aussi deux lectures. C'est qu'on leur reproche de pas vouloir changer, mais aussi, nous, on voudrait pas tant que ça change.
On a parlé beaucoup des Italiens, mais nous en France, je pense qu'on vaut pas mieux parce que, en fait, je pense que c'est parce que nous en France, on a tendance à respecter de fait les plats locaux et régionaux, la bouillabaisse, comme tu disais, le cassoulet, tout ça. Donc en fait, la discussion n'existe même pas. Mais en fait, si on voyait quelqu'un qui mettrait, je sais pas, une pièce de poulet dans la bouillabaisse en disant « Mais si, mais regarde, c'est meilleur, ça rajoute un goût », tout le monde pèterait un câble. Et même les gens qui disent non conservateurs pèteraient un câble aussi, non ?
C'est exactement ça. Et je pense que c'est très intériorisé en France. Et je pense un très bon exemple, c'est quand tu prends... Là, il y a le couscous qui pourrait être classé à l'UNESCO ou la pizza, par exemple. En France, il faut se rappeler que ce qui a été classé à l'UNESCO, c'est le repas gastronomique des Français. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on a assumé le fait que les plats locaux, bouillabaisse, cassoulet, ce que tu veux, ont été intégrés dans une fierté nationale, en tout cas dans un patrimoine gastronomique national, et non pas local, tu vois. Et on a mis en valeur le repas français comme en repas global, etc. Donc, mais une fois encore, je pense qu'il y a l'aspect historique qui entre en compte. La France, la gastronomie, même si la place de la famille est très importante, la place des chefs est très importante et qu'on a quand même, intériorisé le fait que les chefs, les grands restaurants, les palaces, etc., eux sont légitimes à visiter des plats, etc. Donc, ok, c'est acté, tu vois. En Italie, quand Bottura est critiqué et qu'on donne plus de crédit presque à sa grand-mère qu'à un chef, tu vois, c'est que le rapport à la gastronomie est un peu différent. Mais les Français, je pense que c'est historiquement que les Français l'ont, je pense, digéré bien avant les Italiens de par l'histoire.
C'est vraiment le paradoxe chez les nazis de la bouffe, qui est un truc que j'ai un peu remarqué, que j'appellerais la foi du converti, où j'ai fait à manger à la Wheel of Green l'année dernière et j'ai fait une poutine végétarienne qui n'était pas vraiment particulièrement revisitée, mais en gros, j'avais changé le fromage squish-squish, qui est un truc québécois, pour de la feta ou de la chèvre, parce qu'en fait, on n'en trouve pas en France, du fromage squish-squish, et je l'avais végétarianisé en fait en remplaçant la sauce à la viande par une sauce plus crémeuse. Et il y avait des Québécois qui sont passés, qui m'ont dit « Ah, c'est bon, c'est pas comme une poutine, mais c'est différent, mais c'est bon. » Et par contre, il y avait tout un tas de Français qui revenaient du Québec et de Montréal depuis peu, qui disaient « Ah non, c'est pas une poutine, alors ça vraiment, c'est pas du tout ça une poutine, n'importe quoi. » Et j'en parlais avec un pote qui me disait « Mais c'est marrant parce que la poutine, c'est un plat qui existe depuis 30, 40 ans. » Enfin, donc il y a des ayatollahs de la poutine, alors que c'est pas un plat historique, ni de grand-mère, ni rien. Et en plus, il y a des restaurants à Montréal où ils te servent 50 poutines différentes. Donc à un moment, est-ce que vraiment tu peux faire le nerd de la poutine qui va être intransigeant? Et je pense que ça aussi, c'est le truc qui marche aussi en Italie. Ouais. C'est-à-dire que c'est le retour du voyage où toi, tu sais, parce que t'as vu. Alors ouais. Qu'en fait, pas vraiment. Et toi, d'ailleurs, t'as une histoire là-dessus où t'en parles dans ton article. T'as goûté un plat en Italie qui était des gnocchetti.
Ouais.
Est-ce que tu peux en parler? Parce qu'après, quand tu dis toi-même en revenant, t'as été hyper relou avec tes
ouais.
potes.
Ben voilà. Ben donc, c'est un très bon exemple. C'est mon accroche du papier. C'est que je suis parti voir ma famille. J'étais parti en Italie plusieurs fois et j'ai pris mon sac à dos à 18 ans et je suis allé voir ma famille qui habite donc à côté de Pérouse, dans le centre de l'Italie, au centre-centre, au niveau de Florence. Et j'y suis allé et j'avais jusqu'à ce moment-là jamais mangé de gnocchetti ou de gnocchi fait à la main, c'est-à-dire préparé avec des pommes de terre, etc. Et après ça, quand je suis rentré, donc je dis que j'ai tiré deux leçons, c'est que déjà je mangerai plus de gnocchi industriel parce que j'ai goûté un truc qui est quand même qui a quand même rien à voir, tu vois. Et voilà. Sur ce point-là, le fait d'être plus royaliste que le roi, c'est un truc que je vois très bien. Et j'ai un deuxième exemple qui m'est arrivé il y a pas si longtemps. J'aime beaucoup les pizzas, mes amis savent que j'aime beaucoup la pizza et j'ai un pote qui aime aussi beaucoup la pizza. Et je suis allé chez Librigante, qui est une pizzeria à Paris, que je pense que tu connais aussi pas mal. et j'étais surpris parce que lui m'a fait le reproche, il m'a dit « Ah ouais, t'es allé là-bas et tout ?» Et j'ai fait « Oui, oui, et je vois pas le problème. » Et il m'a fait « Ah ouais, mais ils ont la mozza fior di latte, ils ont pas de la bouffala, tu vois. » Et du coup, j'étais un peu surpris et j'ai fait « Mais... » Et en fait, lui, il trouvait inconcevable qu'un Italien ne sert pas... la mozzarella la plus luxueuse,
existe, ouais.
La plus pure, etc. Donc ça m'a surpris et c'est comme et ça n'est pas encore arrivé, mais je suis pas le fait que ça arrive un jour, c'est qu'un jour on vient de me dire attends, mais non, cette pizza c'est pas des tomates San Marzano, comme si c'était la seule tomate qui valait le coup sur terre, etc., tu vois. Et donc c'est problématique en vrai, je trouve ça quand même un côté très sain de vouloir honorer une culture gastronomique et tout. Je pense que c'est pas toujours justifié.
Et je pense que ce qui est problématique, c'est qu'aussi souvent, derrière ça, se cache une OP marketing assez bien ficelée. Je pense que San Marzano, par exemple, dont les tomates ont fleuri depuis peut-être un an à Paris, où vraiment maintenant, ils le mettent sur la carte comme si c'était un truc qu'on avait toujours su, alors qu'en fait, la majorité des gens ne les connaissaient pas avant de les voir sur notamment les gens de chez Big Mama. Il y a quand même, enfin, même si les gens se réapproprient ce truc pour en faire un purisme, c'est aussi une OP marketing de trucs, donc c'est... Pourquoi jeter à la poubelle des tomates très bonnes qui viendraient d'une autre région, même de France ?
Exactement.
C'est vrai que c'est un peu le vice du truc. Il y a une phrase marrante d'un de tes potes qui dit « La cuisine, c'est le dernier truc où c'est encore cool d'être de droite. » Et je trouve ça vraiment drôle. Et c'est vrai qu'il y a un truc de la revendication un peu identitaire, même si le terme est peut-être un peu lourd. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je viens de Marseille. Et dès que j'ai quitté la ville pour aller ailleurs, des premiers trucs que tu revendiques, c'est la bouffe de chez toi. Et dès que je pense, c'est pareil pour tous les gens qui ont été déplacés. Donc il y a vraiment ce truc déjà. Un, la bouffe, c'est les recettes, c'est le truc le plus facile à emporter parce que c'est soit sur une feuille de papier, soit dans la tête des gens. Et en plus, c'est le truc que tu revendiques le plus facilement parce que ouais, c'est ton truc à toi qui vient de l'endroit d'où tu viens. Et tu penses que c'est ça le truc qui fait que aussi on a tous un petit côté comme ça conservateur, parce qu'en fait, je pense qu'en creusant, chacun a ses petites lubies personnelles qui défendra corps et âme sur la bouffe.
Bah complètement. Et ce qu'il faut bien quand même intégrer, c'est que la cuisine c'est ton héritage culturel, c'est ton héritage historique aussi, ça t'a construit socialement, ça a construit dans le point de vue familial aussi, ça te construit beaucoup. Et quand on parle de revendication identitaire, je pense que c'est ça aussi, c'est défendre une partie de soi aussi, de dire d'où tu viens. Il y a le journaliste Olivier Razemont qui travaille pour Le Monde, qui travaille beaucoup sur la mobilité, sur les zones périurbaines, etc. et tout. Et il parlait du sentiment qu'on peut avoir avec la mondialisation, etc., de voir les mêmes maisons, les mêmes pavillons dans toutes les villes, etc. et tout. Aujourd'hui, des débats un peu futiles, tu vois, comme la chocolatine ou le pain au chocolat, le gâteau au roi ou la galette des rois, tu vois. C'est des trucs très futiles, très folkloriques, mais qui, à mon sens, sont assez symptomatiques de notre envie de revendiquer ce qu'on est, de dire d'où on vient dans un monde où t'as quand même un peu plus de mal à, tu vois, à faire place, exprimer ouais. ta différence, tu vois, voilà. Donc clairement la cuisine a ce rôle là et c'est pour ça que quand j'ai un rouleau en face de moi, je garde toujours ça dans un coin de ma tête en me disant ouais, mais tu vois, c'est aussi une manière de défendre et je le fais aussi, et tu vois, c'est un truc, ça t'appartient, tu vois, la cuisine t'appartient aussi, c'est un truc que tu charries avec toi. Et quand tu disais que c'était un des trucs les plus faciles à emporter avec toi, il y a un anthropologue qui en parlait et qui disait sur les personnes qui sont immigrées dans d'autres pays. Lui, il travaillait sur la Syrie, des personnes qui sont parties en Turquie. Il disait que ces personnes-là, la dernière chose qu'ils gardaient avec eux, au-delà de la langue qu'ils abandonnaient assez rapidement ou la religion, etc., la dernière chose qui restait, c'était la cuisine, tu vois, la gastronomie. Donc, c'est dire à quel point c'est prégnant dans la personnalité des gens et dans leur mode de vie.
La conclusion, c'est que donc, vous avez le droit de faire ce que vous voulez en cuisine, mais respectez les noms des recettes.
Ouais.
Et vous avez le droit d'être un peu des relous, mais vous embrouillez pas pour autant et n'insultez pas des gens sur Internet pour ça.
Exactement. Et je pense qu'il y a un truc à garder en tête aussi, c'est que la tradition en cuisine n'est pas du tout une science exacte. C'est que ça dépend où est-ce qu'on se positionne. C'est que est-ce que la tradition, c'était au moment de l'arrivée des pommes de terre en Europe, au moment de l'arrivée des tomates? Est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était quand on mangeait sur les bords des routes italiennes des bouts de pain avec de la tomate dessus et donc du coup ça donnait la pizza après? En fait, parce que dans ce cas-là, la tradition, ça serait pas du tout la pizza comme on la connaît aujourd'hui. Donc il y a ça aussi à garder en tête, de relativiser tout le concept de tradition et de pas se dire que la tradition, c'est tiens, c'est ça et c'est pas autre chose. Tu vois,
peut-être ouais. que tu vas me tuer quand je vais dire ça, mais si à un moment les Italiens c'était pas un peu ouvert aux Chinois et qu'il y avait eu cette espèce de mélange, on sait pas qui a inventé les nouilles et les pâtes, mais en tout cas, si à un moment il y avait eu un truc un peu poreux, bah une des deux cultures aurait jamais mis les pattes, donc et qui est quand même pour les deux un truc central. Donc c'est vrai que des fois oui, si en fait c'est ça, faut vraiment la tradition, faut la faire évoluer, faut surveiller que ce soit pour le mieux, et je pense que c'est l'essentiel.
Voilà, faut rester ouvert. Mais ça m'a un peu touché ce que tu viens de dire.
Merci Robin, on met l'article sur le site de Nouvelles Écoutes et maintenant passons les Alpes et écoutons le témoignage de Floriana qui a pu quelquefois dans sa vie, de son propre aveu, être un peu relou sur la bouffe.
J'ai un surnom sur Internet, c'est Aliatollah.
Je voulais t'en parler justement.
Ouais, ça vient de Alio qui veut dire aïe en italien. Et donc, un jeu de mots, Aliatollah. Non, ça me fait rire, parce que c'est évidemment extrêmement exagéré, et c'est pas du tout... ça me fait rire, quoi, parce qu'effectivement, quand j'écrivais mes recettes et que je menaçais les gens de les empoigner par la clavicule avec ma fourchette, c'était extrêmement exagéré, évidemment, et du coup, le surnom, je le mérite un peu, quoi.
Ton cheval de bataille, c'est la défense de la cuisine italienne. Toi, t'es franco-italienne, c'est ça?
Oui, je suis franco-italienne. Je suis née en France, de parents italiens, qui sont arrivés, qui sont nés en Italie, qui sont arrivés en France en 71. avec les vagues d'immigration d'Italiens. Donc, je suis la première génération de Français dans ma famille. Toute ma famille est italienne, donc on est très. J'ai toujours été extrêmement liée à l'Italie. Et chez moi, donc j'habite à Lyon. Enfin, je suis née à Lyon. Quand j'habitais à Lyon, chez moi, c'est un petit microclimat italien, quoi. Donc, chez moi, ça parlait italien, ça supportait l'Italie pendant la Coupe du Monde, ça cuisinait italien. Donc, forcément. Il y a un lien qui s'est créé qui est extrêmement fort, quoi, qui est beaucoup plus fort que ce qu'on peut l'imaginer, en fait.
Et donc, j'imagine que le mix italien plus lyonnais, ça fait des gens qui sont très, très sérieux sur la cuisine.
Exactement, ouais. Très sérieux sur la cuisine et sur le foot. Non, très sérieux sur la cuisine. Oui, mais en fait, comme n'importe quel Italien, moi, maintenant, j'habite en Italie depuis 7 ans. J'ai fait mes études aussi en Italie, donc c'est pas une Italie fantasmée, celle que je décris. C'est vraiment une Italie que je vis au quotidien. Et en fait, je m'aperçois que par rapport aux Italiens, je suis pas du tout une nazie de la bouffe, quoi. Mais je suis une rigolote.
Parce que eux, c'est presque un sport là-bas. C'est comme nous en France, on adore s'écharper. Je sais pas sur est-ce que Benzema doit être en équipe de France ou pas. Et eux, ils peuvent très bien s'embrouiller sur tel ou tel ingrédient qu'il faut ou pas mettre dans telle
Absolument.
Recette de pâtes.
Ah ouais, non mais ça atteint des niveaux qui sont impossibles à décrire. C'est-à-dire que donc moi j'essaye d'expliquer à ceux qui veulent bien me lire. Comment on fait une recette de pâte à la carbonara? Mais ici, c'est quel guanciale tu mets? Quel pecorino tu mets? Tu vois, non, toi, tu mets le pecorino de telle fromagerie, c'est pas bien, il faut le mettre de telle autre fromagerie. Enfin, ça va dans un niveau de détail. Non, celle de ma mère, elle est meilleure. Le ragoût à la bolognaise, quelle partie du cochon tu mets? Non, moi, je mets celle-là. Enfin, ça va à un niveau de détail très. Enfin, je vais te raconter une anecdote. L'année dernière, à Noël, j'ai organisé donc à Noël, j'habite en Émilie-Romagne à Parme, et le plat typique de l'Émilie-Romagne, c'est on appelle ça les annoloni.
C'est quoi?
Dans un bouillon, c'est des pâtes farcies, c'est des pâtes farcies, c'est des petits raviolis ronds farcis avec de la viande braisée, donc dans la tomate, sauce tomate, revenu extrêmement longtemps, etc. Donc et parmesan, etc. Donc c'est des pâtes farcies à la viande qu'on sert dans un bouillon. C'est délicieux. Évidemment, tu te déplaces de maison en maison, chacun sa recette, voilà. Et donc, moi, j'ai fait ça. J'en ai fait 300 pour mes potes au jour de l'an. Et j'ai une copine qui m'a dit, quelques semaines après, qui n'avait pas osé me le dire le soir même, mais qui m'a dit, j'ai vu comme tu les as fait. Et en fait, j'avais fait, pour les remplir, j'avais fait des petites boules, des petites boulettes.
Ouais.
Et ensuite, j'avais formé mes raviolis en mettant la petite boule au centre. Elle m'a dit, tu ne peux pas faire des boulettes. Il faut faire un cordon que tu coupes et après que tu déposes. Tu peux pas faire une boulette parce que la boulette ça va gâcher le goût. Et j'étais là, mais les mecs, enfin.
Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est que des gens comme toi ou même comme moi ou comme d'autres seraient que la partie émergée de l'iceberg.
Ah oui.
Parce qu'en Italie, il y a des beaucoup plus gros relous que ça qui s'embrouillent quelle pâte utiliser dans quelle recette de pâte, c'est ça?
Exactement. Non, c'est un autre. C'est pour ça que ça me fait rire quand on me reproche d'être aussi intégriste, d'être aussi radical, d'être aussi. Je me dis, mais vous survivriez pas en Italie une semaine. Mais ça, pourquoi? Parce que les Italiens, un peu comme en France, hein, on adore parler de bouffe, on adore, on mange à table, on reste à table des heures. Et le sujet de préféré quand on est à table, c'est de parler de ce qu'on a mangé la veille ou la semaine d'avant ou il y a 6 mois à Naples ou je sais pas où en Italie. Les Italiens, ils ont ce truc que même ceux qui savent pas cuisiner, ils savent cuisiner en fait. Tu vois, les Italiens qui te disent non mais moi je cuisine pas, je sais pas cuisiner, puis tu vas les inviter chez toi, tu vas faire un plat de pâtes, ils vont te dire attends comment tu fais tes pâtes là, faut les faire comme ça, mais pourquoi t'as choisi ce format? Tous les Italiens, ils savent cuisiner, tous les Italiens. Et c'est un gros statement, hein, je me rends compte de ce que je dis, mais c'est vrai, c'est la réalité. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans une culture qui tourne autour de la bouffe sans arrêt, quoi, tout le temps. Dans la rue, dans les maisons, à la cantine, dans les restos. Et dans toutes les régions, dans tous les patelins, il y a une culture gastronomique. Et ça les rend, déjà ça leur donne un savoir sur leur culture et leur patrimoine gastronomique qui est très très vaste. Et moi, j'en suis qu'au début. Hein. Pourtant, je vis en Italie depuis 7 ans, je viens d'une famille italienne, mais je pensais connaître l'Italie en arrivant en Italie, et pas du tout, en fait. Pas du tout.
Et tu penses que ce côté relou de la bouffe, on l'a aussi en France, et c'est notre côté italien, ou même c'est que tout le monde l'a, et, ou alors on va dire que c'est notre côté latin?
Non, je pense que tout le monde l'a. Je pense que quand on s'attaque à des choses qui relèvent pour moi de l'identité, de ce qui fait que t'es telle personne ou telle personne. Et pourquoi je dis que ça relève de l'identité ? Parce que souvent, ce sont des choses que t'as goûté, mangé, senti quand t'étais petit. Les Italiens, ils mangent la carbonara depuis qu'ils ont 2 ans. Donc, pour eux, c'est une odeur, un goût qui rappelle à l'enfance, quoi. C'est le ragoût à la bolognaise, le lasagne du dimanche midi chez la grand-mère, etc. C'est des choses qui te renvoient à des souvenirs d'enfance. Et pour moi, ça, c'est, enfin, pour un être humain, l'inconscient, c'est sacré. Donc, forcément, les Italiens, quand ils voient des vidéos sur le net avec des mecs qui disent, alors, j'ai fait une pizza carbonara avec de l'ananas, ça les rend fous. Hein. Ça les rend fous parce qu'ils disent, mais non, tu peux pas. Pour moi, c'est comme si tu taguais un monument, quoi.
C'est un peu comme si tu retournais dans la maison de vacances où t'allais quand t'étais petit et puis les meubles ont été déplacés et tu dis, attendez, c'est pas comme ça que ça doit être fait, quoi.
Oui, c'est un peu le même sentiment. Il y a autre chose qui s'ajoute à ça aussi, c'est bon, évidemment la fierté du patrimoine gastronomique italien qui est vraiment incroyable, incroyablement vaste et varié. On n'a aucune idée, en fait. On pense connaître la gastronomie italienne parce qu'on a voyagé 2 semaines en Italie, machin, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Et donc, du coup, il y a cette fierté qui s'ajoute à cette chose qui ramène à l'enfance, la fierté, et le fait aussi que, pour dire les choses telles qu'elles sont, moi, j'ai jamais mangé une meilleure carbonara que celle faite par les Romains selon la recette traditionnelle. Après, on peut me dire que des pâtes à la crème ou des pâtes aux champignons, c'est très bon, mais ce n'est pas une carbonara. Moi, je n'ai jamais mangé une carbonara meilleure que celle que j'ai mangée à Rome, chez Roscioli ou à l'Antica Pesa, qui sont des trattorie typiques de Rome, qui te font une carbonara incroyable. Et du coup, quand on leur dit « Oui, mais moi, je l'ai fait comme ça », c'est un peu comme si on leur disait « Moi, je l'ai fait mieux que toi, tu vois ». Et du coup, pour eux, c'est pas possible. Et en fait, quand on apprend à la faire, en fait, tout ça, c'est juste une question d'humilité, hein, un peu. Parce que quand on apprend à faire les pâtes comme font les Italiens, on s'aperçoit qu'en fait, tu peux pas revenir en arrière.
Ouais.
Parce que c'est comme si tu avais découvert un truc que tu connaissais pas et qui, en fait, est incroyable. Et donc, tu reviens pas en arrière et c'est pour ça que tu t'énerves un peu. C'est pour ça que je m'énerve un peu quand mes copains me disent « on va faire une carbonara », et ils sortent la crème, quoi. Non, surtout pas, en fait.
Mais pourquoi tu crois que la carbonara est devenue le symbole ultime de ces luttes ? Parce qu'il y a plein d'autres trucs qui nous font criser, mais pourquoi c'est la carbonara qui est devenue le symbole de tout ça, quoi ?
C'est vrai.
Et c'est plus les carbonara et la crème que même la pizza hawaïenne qui semble, elle, avoir plutôt été acceptée.
Non, alors elle n'a pas été acceptée. Mais si tu veux, la pizza hawaïenne, déjà, c'est difficile à faire chez soi.
C'est vrai.
Okay. Moi, j'ai jamais aucun pote qui m'a invité chez lui qui m'a dit, tiens, vu que t'es italienne, je t'ai fait une pizza à l'ananas. En revanche, tous mes copains qui m'ont invité chez eux à manger m'ont dit un jour, comme t'es italienne, je t'ai fait des pâtes à la carbonara. Ce qui vient, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de dire, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Je suis italienne, surtout ne me fais pas des pâtes, quoi. C'est vraiment le premier truc qui te vient à l'esprit. Je pense que la carbonara, c'est... Bon, déjà, c'est un plat romain, donc il y a énormément de gens qui sont allés à Rome. Partout dans le monde, il y a énormément de touristes qui viennent à Rome, donc du coup, qui ont goûté la carbonara, qui pensent du coup que c'est un plat italien, mais pas du tout, c'est un plat romain. Quand tu vas en Sicile, tu manges pas de la carbonara. D'ailleurs, ça me fait toujours rire, les gens qui vont en Sicile ou en Sardaigne et qui reviennent en disant « J'ai mangé une carbonara, elle était pas bonne. T'étais où ? J'étais à Palerme. » C'est comme manger une choucroute à Marseille, quoi. C'est un peu le même délire. Et du coup, je pense que déjà, il y a ça. C'est un plat très, très connu, facile à refaire chez soi. Et en fait, qui a l'air tellement simple quand tu le manges au resto que tu penses que tu peux le refaire chez toi. En fait, tu te dis, tu le manges au resto, tu te dis, en fait, c'est de la crème, du fromage et des lardons. Mais en fait, pas du tout. Le génie des Italiens, c'est de réussir à faire du crémeux sans utiliser de crème. Et c'est ça, le génie de la carbonara, c'est ça qui fait que c'est incroyablement bon Et incroyablement satisfaisant. C'est parce que c'est des œufs, du fromage et de la pancetta, en l'occurrence. Mais la facilité, c'est de dire, tiens, c'est du crémeux, je vais mettre de la crème. Voilà, donc je pense que les gens pensent que c'est simple, du coup, le refont chez eux. Et pour moi, c'est la recette la plus massacrée en absolu de toute la gastronomie italienne. C'est la plus connue et la plus massacrée.
Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi tu avais ces colères? Parce que même moi, souvent, ça m'arrive de me mettre en colère pour de la bouffe, pour des trucs assez futiles. Et des fois, je me dis non, mais c'est vraiment bête. Mais est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi tu réagissais comme ça?
Ouais, bien sûr. Notamment parce qu'effectivement, surtout au début sur Internet, quand t'as pas l'habitude et que t'écris un truc et que t'as des réactions très fortes qui sont générées par ce que t'as écrit, c'est compliqué à gérer au début, hein, parce que t'as des gens qui te détestent et tu te demandes ce que t'as fait de mal pour que les gens te détestent. Et puis évidemment, t'as énormément de gens qui t'aiment beaucoup aussi, donc ça compense. Mais ouais, je me suis posé la question et j'en suis arrivée à la conclusion que, en fait, c'est parce que la gastronomie italienne, pour moi, elle gagne à être connue. Alors c'est un peu paradoxal de dire ça parce que c'est une des plus populaires au monde. Mais en fait, personne ne connaît vraiment la gastronomie italienne. Et quand on commence à la découvrir et quand on commence à voyager en Italie et à découvrir tous les trucs incroyables qui font partie de la gastronomie italienne et qui naissent dans les cuisines des mamas italiennes, etc., en fait, moi, je me suis aperçue qu'elle gagnait à être connue. Et du coup, ça me rend triste quand je vois qu'elle est bafouée ou quand je vois que les gens la connaissent pas vraiment parce que pour moi c'est comme être en face d'un beau tableau et rien y comprendre quoi et du coup ou d'aller à un concert et de pas j'arrive pas à faire une comparaison valable mais ouais, d'aller à un concert et de pas avoir le son, quoi. C'est ça. C'est comme si t'allais à un concert et que tu pouvais que voir et pas entendre.
C'est comme si on te faisait découvrir U2 et qu'on te faisait écouter la musique, mais sans la batterie. Et toi, tu disais, mais non, mais là, il manque quand même un truc. Les gens
exactement.
Disaient, mais non, mais c'est hyper
exactement.
Cool. Tu dis, mais non, mais il manque quand même la batterie.
Exactement. Et c'est exactement ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça m'énerve. Et aussi, il y a ce côté, mais ça, c'est parce que je vis en Italie. Les Italiens, ils ont ça va faire rire beaucoup de gens, je pense, s'ils m'entendent dire ça, mais les Italiens ont un gros complexe d'infériorité par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand tu parles avec les Italiens, c'est vrai,
c'est vrai que c'est drôle.
Ouais, c'est drôle. C'est paradoxal, mais c'est drôle. Quand tu parles avec les Français, et ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup des Français et que je trouve que les Italiens gagneraient à être comme ça. Il y a rien de plus beau que la France. Il n'y a rien de plus beau que la gastronomie française, il n'y a rien de plus beau que le tourisme français, que les trucs qu'on fait en France. Et je trouve ça génial d'être fier vraiment du savoir-faire français, d'être un peu chauviniste, parce que ça leur permet de faire du marketing, de faire du très bon marketing. Les Italiens, ils font l'inverse. Les Italiens, ils te disent « mais non, mais regarde notre pays qui ne fonctionne pas ». Regarde les Allemands comme ils sont efficaces, regarde les Français comme ils arrivent à bien valoriser leur patrimoine. Et quand tu parles un peu avec les Italiens, vraiment, tu sens ce complexe d'infériorité très fortement développé chez eux. Alors qu'en fait, ils n'ont rien à envier à personne. Et du coup, moi, je pense qu'en étant franco-italienne, je vois les deux côtés et je me dis, mais attendez, Lerital, mais vous n'avez rien à envier à personne. Vous avez tout ce qu'il faut pour... au contraire, vous avez plus qu'il n'en faut pour être sur le devant de la scène quoi. Donc c'est un peu un côté j'ai développé un côté chauviniste à l'instar
à leur place.
Et d'ailleurs ça les fait rire souvent parce que quand on en parle ils disent mais en fait tu défends l'Italie plus que nous quoi. Quand ils vont lire mon blog ou quand je parle de mes voyages en Italie ou dans le monde ils me disent souvent ça, ils me disent c'est marrant ils sont eux à défendre la France et moi à défendre l'Italie. Donc c'est rigolo.
Merci Floriana. Floriana qu'on peut retrouver sur son Instagram et Twitter Flonote, F-L-O-N-O-T. Et aussi sur son blog. D'ailleurs, sur son blog, il y a un truc assez marrant. C'est une carte qui s'appelle le Carbonara Club, qui sont des gens qui ont recensé tous les endroits où on peut manger des vrais carbonara, à Paris, en province, en Italie, dans le monde entier. Donc c'est pas que engueuler les gens pour leur dire vous mangez mal, c'est aussi leur donner la possibilité de bien manger. Et merci à toi Robin. Toutes les adresses et informations évoquées durant l'épisode sont à retrouver sur le site de Nouvelles Écoutes, nouvellesécoutes.fr/bouffon au pluriel. Bouffon est une émission de Nouvelles Écoutes animée par Guillaume Malissen, réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, monté par Marine Rowe, enregistré et mixé par Maxime Olivier au studio L'Arrière-Boutique. Production et coordination, Laura Cuissard. Vous pouvez retrouver Bouffon sur Twitter, BouffonNE, et sous le même nom sur Instagram et Facebook, on y partagera les photos des lieux et plats évoqués. Parlez de Bouffon autour de vous, et pourquoi pas mettez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. À la semaine prochaine!